I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Leduo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Stéphane Desmond. Réalisation, Daniel Finot. Ce soir, Elisabeth Franck-Dumas et Elisabeth Philippe se font face à notre affiche « Merci pour l'invitation ». De Laurie Moore aux éditions de l'Olivier, Les Hommes sans Femmes de Haruki Murakami chez Belfond et De la simplicité d'Henry David Thoreau chez Gallimard en collection Folio Sagesse. Vers 21h20, Xavier Martinet nous invitera dans le petit salon pour parler d'ateliers d'écriture et puis il y aura encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le spectacle Noé du Malandin Ballet Biarritz au Théâtre National de Chaillot à Paris. Pour la représentation du jeudi 17 mai à 20h30. Et nous ouvrons cette émission avec « Merci pour l'invitation » de Laurie Moore, paru aux éditions de l'Olivier dans une traduction de Laetitia Devaux. Je me souviens, comme si c'était hier, mais ce n'était pas le cas, de ce premier recueil paru en France des histoires pour rien en 1985. Laurie Moore avait 28 ans et je suis devenu immédiatement fan. Ce nouveau recueil recèle une collection de vies malmenées, de ruptures pas digérées, de malentendus en tout genre et surtout de ratages même pas en beauté. Alors, on peut toujours attendre un jour de soleil. Bon, ça peut arriver, météorologiquement parlant. Au niveau des sentiments et des états d'âme, c'est pas tout à fait la même histoire, Elisabeth Franck-Dumas, pour ce recueil. Merci pour l'invitation de Laurie Moore.
Non, ce n'est pas un recueil très ensoleillé. Tout ça ne se passe pas très bien. On parlera tout à l'heure des hommes sans femmes. Là, il y a des femmes sans hommes, des hommes et femmes ensemble qui se séparent ou alors qui ne sont pas bien ensemble. Et contrairement à À Murakami, dont on va parler dans un instant. Je dirais que Laurie Moore se caractérise quand même par des accents assez stridents, un rythme un peu staccato, des accélérations, énormément d'humour. Enfin, il y a ce qu'elle raconte. C'est vrai qu'il y a toutes ces histoires de couples un peu médiocres, classe moyenne américaine, qui ne vont pas bien et s'entendent encore moins bien. Mais il y a un humour, une ironie, parfois vraiment sardonique, qui pointe. Et ce rythme qui fait qu'on reconnaît tout de suite une nouvelle de Laurie Moore, notamment un usage de la ponctuation et du point d'exclamation. Alors je sais que le point d'exclamation a très mauvaise presse ces jours-ci, on en use et on abuse, elle en fait un usage vraiment génial. Parce qu'elle mélange toujours très habilement des drames, parce qu'il est quand même question de pas mal de drames dans ce livre, et aussi des choses fondamentalement prosaïque, des petites banalités du quotidien. Et on peut lire non seulement ce qui est en train de se passer aux États-Unis, parce qu'il y a quand même aussi une réflexion politique à travers tout ça, toutes ces histoires, toutes ces intrigues, ces couples qui se délitent servent à raconter l'Amérique contemporaine, mais toujours avec cet humour. J'étais amusée de voir qu'il y avait un exergue, enfin il y en a trois d'ailleurs, au recueil Nous Nouvelles, mais je vais juste vous lire trois lignes de celui de Louise Gluck. Dans ce rêve de séparation, nous nous battions sur qui aurait la garde du chien. Blizzard, ce nom, allez savoir d'où il venait. Et là, il y a un petit peu tout le programme du reste du livre. C'est à la fois une attention aux mots, une attention à l'incongru qui survient n'importe où du quotidien. Et son programme, c'est aussi de relever à chaque fois tout ce qui cloche, tout ce qui va pas. Et les couples eux-mêmes, ou les personnages eux-mêmes, ont perpétuellement, même au cœur d'une catastrophe, une espèce de recul amusé, il persiste à hurler de rire, à avoir des échanges, à se mettre à jouer au ping-pong verbal. Il y a un sens de la répartie qui fuse. Alors c'est le trait est parfois un petit peu exagéré. Il y a quelque chose, tout le monde est un peu hystérique, un peu névrosé, un peu trop intelligent. Mais ça fait qu'on regarde, le lecteur regarde ces situations a priori banales exploser devant lui. On regarde ça médusé comme un feu d'artifice ou un accident de voiture. Et puis un vrai sens de la formule. Je vous donnerai quelques petits exemples parce que j'espère qu'ils donneront envie aux auditeurs de lire ce recueil. Dans la nouvelle qui s'appelle « Perte de papier », qui chronique un divorce, une femme est lâchée par son mari pour une autre femme plus jeune. Elle est en pleine procédure de divorce et on lit ceci. Elle apprendrait que l'État était propriétaire de leur image et qu'il le lui reprenait comme une franchise de fast-food de poulet qu'elle aurait fait péricliter. Voilà, donc c'est l'association à chaque fois de ces drames du quotidien et puis de ces expressions sorties d'onde ses ou qui font, je trouve, tout le charme et tout le prix des nouvelles.
Bon, on aura quelques autres exemples, j'en suis sûre, dans un instant. Elisabeth oui. Philippe sur Laurie Moore.
Oui, forcément, j'ai goûté aussi la cruauté délectable et délicieuse de ces nouvelles, même si je trouve que ça va un peu décrescendo. Alors, on reparlera de Murakami, je trouve que c'est l'inverse. Là, ça va crescendo dans le recueil de Murakami. Là, ça démarre vraiment en fanfare. La première nouvelle est extraordinaire. Je crois que c'est un concentré du talent et de l'art, justement, de la formule dont elle abuse un petit peu, à mon sens, de Laurie Moore. C'est donc un homme fraîchement divorcé qui, au cours d'un dîner d'amis, se voit présenter une quinquagénaire célibataire. Elle est très séduisante, tout se passe très bien. Sauf que cette quinquagénaire entretient une relation totalement fusionnelle et névrotique avec son fils de 16 ans. Et que, évidemment, notre célibataire divorcé va avoir du mal à trouver sa place dans ce duo. Et notamment, enfin, ouais, c'est des petites choses, mais moi qui me faisais éclater de rire. Donc, le personnage du célibataire est juif et quand il rappelle la femme pour prendre rendez-vous, elle a du mal à le remettre, à savoir qui c'est. Et puis tout d'un coup, elle fait « Ah mais oui, ah le juif !» Comme ça. C'est épouvantable, mais je trouve que ça marche très bien. Il y a une efficacité comique, c'est vraiment des nouvelles qui fonctionnent comme des micro-comédies implacables, parfaitement huilées. Comme vous le disiez, Elisabeth, il y a tout un jeu de miroir entre la situation déliquescente de l'Amérique et puis la situation des couples. Mais c'est jamais appuyé, c'est au travers de détails que l'on en a conscience. Ça peut être un autocollant Donald Rumsfeld au cul d'une voiture ou une mention dans une des nouvelles de la prison d'Abu Ghraib, qui n'est jamais nommée d'ailleurs comme telle, ou la guerre d'Irak. Il y a ces échos plus ou moins lointains de l'histoire récente américaine et donc ce jeu de parallélisme entre ces couples qui se défont et cette Amérique également qui périclite comme la chaîne de fast-food de poulet dont on parlait. Il y a ces symboles, ces motifs qui reviennent de texte en texte, de l'alliance que les personnages ne parviennent pas à retirer parce qu'elles vous disent, voilà, leurs doigts ont grossi. Il y a toujours cette alliance qui les gêne, qui les contraint. Globalement, c'est un recueil que j'ai beaucoup aimé, mais je trouve qu'il y a quand même, il peut y avoir un recours un peu facile à la formule Maline. Elle est très, très douée. C'est vrai qu'elle a un sens des comparaisons, de l'observation des petits détails, que ce soit le prix des poulets bio, les visages abîmés par la chirurgie esthétique, qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'odeur cireuse d'une personne âgée, d'un vieil homme. Tous ces détails, elle est absolument formidable dans ce registre-là. Après, je pense que c'est aussi une facilité qui peut lui nuire dans certains textes qui ne reposent que sur ces formules et dont on retrouve... Encore une fois, je trouve que c'est la nouvelle qui ouvre le recueil est tellement explosive qu'après, forcément, il y a une forme de petit délitement, mais c'est très léger. Ça reste quand même un grand plaisir de lecture pour ce côté, encore une fois, cruauté minuscule et puis cette vachardise assez délectable.
Et on n'a pas dit que ce sont des nouvelles assez longues, hein, quand même, chacune d'entre elles. Voilà, je pense, sans pas, voilà, pour préciser un peu les choses pour les auditeurs, 8 sur, je sais pas quoi, 200. 80 pages ou enfin quelque chose comme ça, dire que ce sont pas aussi des nouvelles à chute comme ça peut arriver parce que les il tombe tellement qu'il y a suffisamment de chutes au sein même des textes, mais il y a aussi ces formules, elles sont pas finales, elles sont sans arrêt incisées dans le cours du texte. Alors ça, il y a toujours une fin, manque quelque chose qui est souvent assez peu joyeux quand même et qui annonce pas des lendemains qui chantent ou des cieux qui brillent particulièrement ou des soleils qui brillent particulièrement, mais c'est vrai qu'il y a il y a ces formules et puis c'est je pensais à ce célibataire, enfin ce divorcé de la première nouvelle, Ira, qui se rend compte quand même au bout d'un certain temps que sa nouvelle petite amie est sérieusement dérangée, qui dit comme ça, mais alors c'est beaucoup mieux écrit évidemment par Laurie Moore, que ça devrait être interdit que des gens fous puissent être séduisants. Ouais. Voilà, il y a tout le temps comme ça des annotations qui viennent, et puis c'est la nouvelle qui donne son titre au recueil aussi, je la trouve quand même très bien, même si elle est plutôt vers la fin du recueil. Merci pour l'invitation, avec ce mariage qui est en lui-même déjà assez complexe, parce que là on est plutôt dans l'amour et dans le pré avec une Brésilienne qui épouse un deuxième fermier après avoir épousé le fermier d'à côté, mais d'ailleurs son ex-mari est là, enfin bon, et ça va déraper, et pareillement il va y avoir une sorte de fin un peu ouverte, c'est peut-être presque la plus optimiste de toutes, mais on n'est quand même jamais dans une résolution, dans une explication, mais plutôt dans un suspens souvent, Elisabeth Franck Dumas.
Oui, c'est-à-dire que en fait l'acmé de la nouvelle n'est jamais à la fin. Il y a des passages très beaux, alors on a beaucoup parlé de cette première nouvelle, mais il y a un moment qui est totalement anodin et presque grotesque, et dont elle arrive à faire quelque chose de poignant, où vraiment est résumé à la fois la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays et le personnage principal, donc Ira qui sort avec cette femme légèrement folle. Il est en voiture et il passe à côté d'une pancarte. On est en pleine deuxième guerre d'Irak et il voit un panneau klaxonner pour la paix. Et alors, il klaxonne. À quoi cela peut-il servir? On n'en sait rien. D'autres voitures limitent et tout à coup, toutes les voitures s'arrêtent. Et on lit ceci. On aurait dit une congrégation de tourterelles tristes qui cacardaient comme des oies en un cœur sauvage et futile, tandis que les pare-brises en éventail étaient balayées par les essuie-glaces. À deux reprises, personne ne démarra au feu vert. Ce moment avait beau être stupide et splinétique, ce fut un pur instant de formidable chagrin civique. Mais à la fois, il y a juste ce qu'il faut d'ironie et en même temps, on y croit aussi un tout petit peu. Et en fait, je dirais que les moments les plus poignants dans chacune de ces nouvelles, ça n'est jamais la fin. Après, c'est vrai que je dois reconnaître qu'elle en fait parfois un petit peu trop. C'est-à-dire qu'on...
Elle a des facilités, quoi.
La lectrice n'oublie jamais que l'auteur est toujours plus intelligent que les personnages. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie de lui dire de se calmer parce que parfois même viennent aux personnages des pensées dont on n'est pas certain qu'ils auraient vraiment pu les avoir, d'une sophistication et d'une... Bon, après, il y a quand même des moments où on éclate de rire. Un couple est invité à un dîner, enfin un gala caritatif à Washington. Et alors, dans ce couple, il y a un écrivain, je dirais, à demi-raté. Enfin, ça veut dire qu'il a aussi à demi-réussi. Et il a été invité là et payé pour passer la soirée à parler de culture. Bon, le dîner se passe très mal. Il est à côté d'une femme. Je ne vais pas raconter la nouvelle parce qu'il y a pas mal de surprises dans cette nouvelle. Mais enfin, inutile de dire qu'elle ne partage pas ses opinions politiques. Et au début de toute cette nouvelle, pour résumer la situation, il y a cette formule absolument géniale. Hedge fund et haïku. Et voilà, quand ils sont en train de parler de ce dîner. Et c'est un peu ça. Elle a le don quand même de ramasser en quatre mots le grotesque d'une situation. Et là, c'est hedge fund et haïku. Car tous les gens invités, hormis eux, sont des financiers. Et voilà, il faudrait que ces deux univers se rencontrent et se parlent et se disent quelque chose. Ils ne le feront pas vraiment.
Oui, ça fait partie des nouvelles que j'aime beaucoup aussi, ce dîner de gala. C'est une escalade de malaise pour le personnage d'écrivain de Miraté qui, au bout d'un moment, n'en pouvant plus, essaye de se faire mousser en disant qu'il a eu le prix Nobel.
Il y a parfois... Ce qui ne surprend même pas sa voisine.
Non. Qui est absolument charmante. Et là, pour le coup, vous disiez, Arnaud, qu'il n'y avait pas forcément de chute. Mmh. Celle-ci, en a une. Et,
c'est l'exception qui confirme la règle.
Oui, qui confirme la règle, absolument. Et elle est absolument terrible. Ouais. Là non plus, on n'est pas... du côté du soleil et de la joie. Il y a une nouvelle où il y a une petite incursion dans le fantastique, enfin un peu, je crois que c'est la deuxième.
Oui.
Avec trois personnages de femmes qui vont rendre visite à leur amie défunte. Alors, est-ce que c'est un rêve de la narratrice qui, à cause de son sentiment de culpabilité, est hantée par la figure de cette amie qui vient de disparaître ? Toujours est-il que les personnages de femmes qui se retrouvent chez cette morte, il y en a une à qui il manque un bras, une autre qui est affaiblie par une récente attaque. Donc, c'est vraiment l'Amérique des éclopés. C'est une Amérique éclopée, portée par des personnages d'éclopés. Je trouve qu'en ce sens-là, cette nouvelle est très symbolique. Du contenu de ce recueil, mais encore une fois qui brille par son mordant, par ce côté incisif, ce sens de la formule certes un peu trop utilisé par Laurie Moore, mais qui reste très très appréciable et très agréable à lire.
Dernier mot ? Une dernière citation, Elisabeth Franck-Dumas ?
Non, je ne vais pas faire une dernière citation. Enfin, quoique, si.
Ouais, je vois. Je vous connais.
Un couple, encore une fois, qui va se séparer, une chanteuse de rock qui, elle non plus, n'a pas eu la carrière qu'elle méritait.
À moitié très ratée.
Oui, à moitié très ratée. Et son jeune ami, encore plus raté qu'elle, si c'est possible, un peu parasite. Il s'appelle Dench. Et elle est en pleine réflexion sur sa propre existence. Et il y a une formule d'une vacherie. Comme à chaque fois ou presque qu'elle songeait au mauvais tournant dans sa vie, elle se remémora sa rencontre avec Dench. Moi, c'est le genre de choses qui me fait vraiment beaucoup courir. C'est drôle. Je ne sais pas si on l'a assez dit. C'est vraiment très drôle.
Les paroles
drôle.
Des chansons qu'elle compose sont magnifiques aussi. Ouais. Bon. Parler de fenouil et de fromage dans un refrain, c'est pas mal.
Pas mal. Elle pourra faire une chanson sur Hedge Fund et Haïku, certainement. Oui. Merci pour l'invitation. C'est le titre de ce recueil de nouvelles de Laurie Moore qui paraît en France aux éditions de L'Olivier dans une traduction de Laetitia Devaux.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, Haruki Murakami et Henry David Thoreau. Mais tout d'abord, nous suivons Xavier Martinet dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Il y a un petit salon qui prend pour point de départ le décès qu'on a appris la semaine dernière d'Elisabeth Bing, un nom qui n'est pas forcément familier de tous nos éditeurs.
Pas forcément. C'était une enseignante, Elisabeth Bing, et qui a créé parmi les premiers ateliers d'écriture en France dans les années 70, et surtout qui avait une position intéressante de ni école d'écrivain, disait-elle, ni des groupes d'expression libre où se fourvoient des demandes thérapeutiques masquées, des ateliers plutôt pédagogiques au départ, qui se sont tournés vers la formation en entreprise et qui ont eux aussi développé leur vendredi littéraire animé par des auteurs publiés. Eux aussi, car ces 20 dernières années, le paysage s'est diversifié, notamment avec ce qu'on appelle aujourd'hui les creative writings, les ateliers de création littéraire importés des États-Unis. Un paysage d'ailleurs décrit récemment par Florence Bouchy dans Le Monde. Ils étaient une centaine en 2003, ces ateliers selon Marianne. On n'a pas de chiffres aujourd'hui, mais leur succès auprès du public n'empêche pas un débat sur leur légitimité, toujours. France Culture en parle abondamment. Antoine Guillot l'évoquait d'ailleurs en 2013 dans sa revue de presse. « Honteux atelier d'écriture », avait-il titré, au sujet d'une enquête de vous, Elisabeth Philippe. Intéressant, ce qui était encore pris pour une gentille graphomania, comme le disait l'Express en 1999, est passé par toutes les étapes, on pourrait dire, de la validation sociale et, semble-t-il, littéraire. Aujourd'hui, les journalistes ont assez rappelé leur histoire fertile aux États-Unis et puis, hormis Patrick Grainville, dont j'ai vu une interview dans le Figaro, on les accuse moins aujourd'hui, ces ateliers, moins souvent en tout cas, d'usurper le génie littéraire. Les milieux éditoriaux eux-mêmes s'en sont emparés, sans parler des formations de création littéraire en université. C'est aussi l'atelier NRF Gallimard qui avait donné le ton en 2012. Le Figaro, en janvier dernier, pour des écoles de prestige aussi, sous forme de masterclass, hein, animé par Philippe Djian ou Fabienne Jacob. En début d'année aussi, Alexandre Lacroix de Philosophie Magazine et l'ex-journaliste Élise Neubou lançaient un atelier en forme de start-up du roman. Il s'appelle Les mots à Paris. Des séances de 2 heures peu coûteuses. C'est même l'atelier d'écriture le plus trendy du moment, dit la revue Transfuge, de ce supermarché, si on était méchant, des techniques d'écriture. Certains d'ailleurs jouent à fond l'approche individuelle. Votre vie est un roman, annonce Aleph Écriture, lui qui est le numéro 1 en France. D'autres plutôt la carte de la retraite spirituelle, comme chez Laurence Nobécourt dans la Drôme, avec ses ateliers en vivant, en écrivant, avec retraite en cabane, pour, je la cite, une invitation à l'expérience alchimique de l'écriture. Les méthodes aussi, on peut en dire un mot, sont assez variées, évidemment. Chez Gallimard, la romancière Fabienne Jacob fait lire des textes d'Annie Ernaux pour rédiger un épisode de honte sociale à des femmes plutôt de la classe supérieure, avocates ou ressources humaines. Dans d'autres ateliers, eh bien, c'est plutôt l'art du lâcher-prise, hein, comme dans le yoga, souligne le Figaro. Et puis, ils répondent aussi à toutes sortes de motivations. Le Monde de mars dernier cite un aspirant écrivain qui a voulu, je le cite, approcher le monde du journalisme et de la critique littéraire. Il y a aussi une scénariste étonnée de retrouver ici si vite le plaisir physique déjà d'écrire avec un stylo. On a au moins bien rigolé, conclut Florence Bouchy, après une séance animée par un humoriste à l'atelier des mots. Alors même si on sent souvent, vous l'entendez, une certaine ironie dans la presse, hein, qui note notamment la présence récurrente de petits gâteaux à la NRF ou chez Elisabeth Bing, eh bien la tolérance est plus grande aujourd'hui. Reste la question fondamentale à côté de ces grands parrains, de ces ateliers ou du développement personnel. Où sont donc les écrivains? Eh bien, ils sont là. Le cas du Goncourt 2016, Leïla Slimani est venue réactiver le débat. Depuis que Leïla Slimani, passée par l'atelier de Jean-Marie Laclaftine, a obtenu le prix Goncourt pour son deuxième roman, l'idée d'une pépinière d'écrivains alimente les fantasmes, dit Le Monde. Leïla Slimani explique, elle, j'y ai trouvé quelques clés qui m'ont fait comprendre pourquoi, sans doute, mon premier manuscrit avait été refusé. Mais elle conclut, il ne faut pas avoir d'attente démesurée. Alors, peut-on apprendre à devenir écrivain? On ne va pas reposer une énième fois la question. En tout cas, l'idée a visiblement progressé en France, répond Le Monde. Du moins, la question est celle-ci. Les ateliers d'écriture ont-ils gagné ce qu'on pourrait dire leur lettre de noblesse?
Elle est compliquée, cette question. Ou alors on répond oui, ou alors on répond non. En même temps, on pourrait le faire comme ça. Ce serait un très court petit salon. Alors, comment citer une de vos enquêtes, Elisabeth Philippe? Mise à jour?
Mise à jour. Alors, j'ai pas vraiment suivi. Puis, je pense que je serais plus la bienvenue dans le...
Après ce que vous avez écrit.
Oui, malheureusement. Mais non, je pense que le point important, c'est l'entrée de ces ateliers à l'université, mais qui reste assez récente. Quand j'avais fait ce papier, je crois que c'était en 2013, c'était quoi, il y a 4 ans, donc je pense qu'on n'a pas encore le recul suffisant pour voir si effectivement ça forme des auteurs. Et puis je pense que la visée de ces ateliers, dont certains, je crois, à Saint-Denis, sont animés par Olivia Rosenthal, enfin par des écrivains de talent. Je pense pas qu'on ait le recul, voilà, pour voir si effectivement ça va être des pépinières à Pulitzer ou en tout cas à Goncourt, comme le sont les ateliers de creative writing aux États-Unis, notamment celui de l'université de l'Iowa qui reste le plus prestigieux. Et encore une fois, ces ateliers ne visent pas forcément à former des écrivains, mais à pratiquer, en tout cas ceux de l'université, à pratiquer l'écriture, effectivement, pour former aussi des scénaristes, pourquoi pas des journalistes. On peut pas reprocher aux gens de vouloir écrire tant que tous ces textes ne sont pas publiés, ne viennent pas s'accumuler sur nos piles de livres. Moi, j'y vois pas le moindre problème. Mais pour ouvrir un peu le débat, moi, je me souviens d'un texte extrêmement intéressant écrit par Chad Arbach, un romancier américain, qui s'appelait MFA versus NYC, donc MFA, Master of Fine Arts, donc l'université, les ateliers de creative writing, contre New York. Et il montrait à quel point cette opposition structurait désormais totalement le monde éditorial américain. D'un côté, les auteurs venus de ces ateliers, et de l'autre, ceux qui, plutôt basés à New York, fonctionnent selon les modes traditionnels de l'édition. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant. Alors, on n'en est vraiment pas là en France. La question qui se pose aussi toujours avec ces ateliers d'écriture, c'est est-ce que ça forme des écrivains clonés ? Est-ce que ces gens vont prendre des tics d'écriture ? C'est vrai que dans certains romans américains, on peut voir un peu les structures qui sont recommandées, alterner la description et la narration, etc. Là, encore une fois, on n'a pas le recul. Moi, je ne sais pas si la NRF va devenir une pépinière à Goncourt. C'est déjà des ateliers très onéreux. Donc, ça reste quand même assez récent, et c'est vrai qu'on repose constamment cette question. Est-ce qu'ils vont gagner leur lettre de noblesse? Est-ce que les Français sont totalement hermétiquement fermés à cette notion-là, selon laquelle on pourrait apprendre à écrire? C'est vrai que ça revient très régulièrement sur le tapis.
Elisabeth Franck-Dumas.
Bon, je pense que ça dépend un peu à la fois des ateliers, des motivations, de ces, non pas des participants, mais des organisateurs. C'est-à-dire pourquoi est-ce que tout à coup, pourquoi est-ce qu'on décide de créer un atelier d'écriture? Je pense que c'est souvent économique. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé là, mais c'est quand même que certains de ces ateliers coûtent extrêmement cher. Alors, encore une fois, il faut distinguer ça et puis une formation à la fac de master en création littéraire. Donc, il y a énormément
ça,
de choses.
À Paris 8, c'est Olivier Rosenthal notamment qui mène
à
ça.
Paris
et
8,
ça donne d'autres choses.
Non, mais pour ce qu'on parlait d'elle, au Havre aussi, je crois. Oui. Et oui, alors si on tombe là, sur Olivier Rosenthal ou Laure Limongi qu'il faisait, continue au Havre. Bon, à ce moment-là, ce qui est formidable, c'est que justement, j'imagine que les étudiants vont être encouragés à expérimenter, à sortir des chemins très balisés. Peut-être qu'ils vont découvrir des formes littéraires qu'ils ne connaissaient pas, j'en sais rien, mais pourquoi pas? Enfin, il y a bien des écoles des beaux-arts aussi, et je ne vois pas qu'on s'énerve tous en se disant « mais c'est incroyable, on ne peut pas apprendre à être artiste, il y a une tradition, là, il est vrai ». Au 19e, il y avait des mentors aussi, Maupassant qui a appris avec Flaubert, enfin, le problème c'est plus, voilà, ce qu'on cherche, est-ce qu'on cherche à devenir écrivain, ou est-ce qu'on cherche simplement à se connaître soi-même, le monde, à participer à une grande représentation du monde? Ou est-ce qu'on cherche à devenir un écrivain professionnel? Bon, là c'est un peu plus risqué, mais je pense que la part économique, elle vient aussi du fait que pour les écrivains aujourd'hui, c'est extrêmement important économiquement de pouvoir participer à ces ateliers. Hein. Je ne sais pas si on avait parlé à la dispute du livre de Serge Joncourt ou pas, mais enfin c'est devenu la résidence d'écrivains, et l'animation d'ateliers d'écriture, c'est quand même devenu un moyen pour des écrivains publiés, peut-être pas des écrivains best-seller, mais des écrivains reconnus, de gagner leur vie aussi. Donc tout ça participe d'un système économique.
Oui, c'était d'ailleurs la principale critique que formulait David Foster Wallace dans un texte assez célèbre sur ces ateliers d'écriture, de dire que finalement, au bout d'un moment, ça devenait une espèce de circuit circulaire de la formation d'écrivains, à savoir que ce sont des écrivains qui enseignent à d'autres aspirants écrivains à comment écrire. Et tout ça se reproduit dans une espèce de vase clos, et pour ne pas produire forcément de nouveautés. Donc c'était la critique formulée par David Foster Wallace.
Oui, mais tout dépend effectivement de l'approche. Pour avoir échangé sur le sujet avec Olivier Rosenthal, dans le Master de création littéraire de Paris 8, où il y a plusieurs écrivains qui sont intervenants, il s'agit d'accompagner des projets que les étudiants amènent. C'est-à-dire que c'est du théâtre, de la poésie, de la nouvelle, du polar. Et justement, ce qui est intéressant, m'écrivait-elle, c'est de rentrer dans la logique du projet, ses goûts à elle personnels ou son écriture à elle personnelle étant mis de côté. C'est vraiment un accompagnement. Il y a différentes façons de faire. J'imagine qu'il y a aussi un côté bonne recette économique, comme vous le dites, Elisabeth Franck-Dumas. Et quand je penche pas mal pour la demande thérapeutique déguisée que vous citiez. Je pense qu'elle est quand même, elle a une part non négligeable, et que certainement des gens peu scrupuleux peuvent parfois en abuser.
Oui, pour les aspects économiques de ce que j'ai vu, c'est vrai qu'on est autour d'une soixantaine d'euros la séance, sauf effectivement les ateliers d'écriture très très rapides, avec des séances très courtes. Simplement, pourquoi est-ce qu'on aurait pu avoir l'impression aujourd'hui qu'il y avait une fertilité plus grande, effectivement, à cause de ce concours pour Leïla Slimani, et parce que aussi, on a un peu parlé dans la presse récemment d'Elitsa Georgieva, qui a écrit Les postmodotes ne font que passer, qui a eu un prix également, et elle aussi, qui est passée par les ateliers d'écriture.
Enfin, elle sort du Master 8, pour le coup, de Master de Paris 8, pardon.
Exactement. Et la dernière chose...
Mais il y a d'autres livres qui vont arriver, qui sont d'étudiants de cette même université.
Il sera bon de le souligner.
Au Seuil, à Flammarion, enfin, des esthétiques et des éditeurs divers.
À ce moment-là aussi, et je me disais, pour revenir à cette différence avec les États-Unis, cet exotisme qu'on prêtait aux creative writings, et puis un peu le préjugé dans lequel ils ont été tenus, est-ce qu'il n'y avait pas une question plus spécifique et plus, effectivement, vous le disiez, Elisabeth, traditionnelle, spécifique à l'histoire littéraire en France, puisque, effectivement, il y a eu tout un débat théorique au XXe siècle, mais pas seulement, d'ailleurs, ça peut commencer avec la préface d'Hernani, on peut reprendre avant même sur la position de l'écrivain et plus ce que ça, disons, le statut à accorder à l'inspiration et donc finalement au travail, que ces ateliers sont venus s'inscrire là-dedans et que peut-être on a eu des réactions d'écrivains, en tout cas en le lisant, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une volonté de préserver, disons, cette pureté de l'inspiration ou du moins quelque chose qui était de l'ordre du patrimoine, de la technique et du mystère. Je ne saurais pas comment le formuler, mais ça... voilà.
Oui, alors qu'aux États-Unis, un homme, là comme ailleurs et en toute chose, hein, on en parlera lorsqu'on évoque Thoreau, du travail, justement. Ouais. Et cette idée que, à force de travailler, on va bien finir par y arriver. Bon, après, il y a le talent qui sépare un Raymond Carver ou une Laurie Moore de tous ces livres formatés dont les écrivains sortent, comme Carver et Laurie Moore, d'ateliers d'écriture. Donc ça,
oui, Laurie Moore sous l'aile d'Alison Laurie, sauf erreur, mais elle-même, Laurie Moore, devenue depuis enseignante dans les groupes de Creative Writings, donc j'imagine qu'elle a aussi des gens qu'elle a formés ou accompagnés qui publient eux-mêmes. Xavier, dernier mot.
La dernière chose, oui, c'était relativement à votre remarque, Elisabeth Philippe, que des ateliers qui, sans le vouloir aujourd'hui, par leur structure même et leur fonctionnement, fassent école, finalement, je ne l'ai pas vérifié encore dans la presse, mais sans doute ce sera intéressant à voir.
Ça risque d'arriver, Elisabeth.
Mais nous verrons bien.
Nous verrons bien. Refermons les portes de ce petit salon. Et le deuxième livre à notre sommaire, on l'a déjà dit plusieurs fois ce soir, c'est « Des hommes sans femmes » de Haruki Murakami chez Bellefond, dans une traduction d'Hélène Morita, là encore donc un recueil de nouvelles, auquel d'ailleurs nous faisons la part belle dans la dispute, c'est là étant ce qui me réjouit. Alors, on se souvient peut-être, voire sans doute, si on aime Murakami, de Kafka sur le rivage, paru en 2006 en France. On retrouve le grand Franz dans une des nouvelles de ce recueil de Murakami, Samsa amoureux, qui paraphrase le début de la métamorphose. Lorsqu'il s'éveilla, il s'aperçut qu'il s'était métamorphosé en Gregor Samsa et qu'il était allongé sur son lit. La suite reprend aussi le début de la célèbre nouvelle de Kafka. Mais alors effectivement, recueil nouvelle, recueil des obsessions, recueil de tout ce qui concerne Murakami depuis si longtemps. Peut-être le début de la nouvelle, Samsa amoureux, nous plonge dans le mystère, mais toutes les nouvelles de ce recueil des hommes sans femmes, qui empruntent son titre au dernier texte, qui emprunte quand même aussi à Hemingway, on y reviendra, sont traversées par le même état, plutôt que la même question, la question de la solitude, l'état de solitude. Et alors, cousinage émotionnel avec Laurie Moore peut-être, mais quand même évidemment dans une... Là on a un recueil écrit par un homme, et on l'entend bien ici, on le voit bien dans ces lignes, Elisabeth Philippe.
Oui, d'ailleurs, vous le dites, c'est écrit par un homme, et j'ai eu un peu peur dans la première nouvelle de quelque chose de très très genré, très essentialiste, un peu les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, puisque la première nouvelle, il est question d'un acteur, d'un comédien qui s'est vu retirer son permis et qui a donc besoin de faire appel à un chauffeur, et en l'occurrence, son garagiste lui propose une jeune femme, donc une chauffeuse. Alors on a droit à des considérations sur les qualités de conductrices ou non des femmes. Donc, j'avoue que là, j'étais un peu arrêtée. Heureusement, ça passe assez vite, même si ce travers, on va le retrouver dans certains textes. Donc, j'avoue que c'est un défaut de ces nouvelles, à mes yeux, en tout cas. Ce premier texte, alors je disais que chez Laurie Moore, à mes yeux, en tout cas, ça allait un peu décrescendo. Là, moi, je trouve que ça va plutôt crescendo dans ce recueil des hommes sans femmes. En fait, on monte à bord de ce recueil comme le comédien monte à bord de la voiture conduite par cette jeune femme qui s'avère une excellente conductrice avec une conduite très fluide, très souple. Et on est porté par l'écriture de Murakami qui est, elle aussi, très simple, très fluide, assez délicate. Et on va se laisser porter. Et je trouve que les textes montent en puissance, finalement, à mesure que le fantastique va s'y inviter. Ça, c'est important. Donc, dans les premiers textes qui sont vraiment, selon moi, assez plutôt en sourdine et un peu moins bons, il faut bien le dire, on trouve malgré tout des images comme des petits éclats, comme ce texte dans lequel il est question de deux étudiants qui se partagent plus ou moins, même si c'est plus compliqué, la même jeune fille qui fait des rêves de lune de glace. Alors cette image du rêve de la lune de glace, c'est très poétique. Dans un autre texte, il est question d'un chirurgien très volage qui ne souhaite pas s'attacher aux femmes avec qui il entretient des relations. Donc il ne fréquente que des femmes mariées pour qui il est le petit ami des jours de pluie. Ça aussi, j'ai trouvé ça très très joli. Et ce chirurgien va... Je vais pas dévoiler la fin.
Ne le dites pas.
Donc, ce sont les premiers textes. Ça commence pianissimo. On est loin du staccato de Laurie Moore dont vous parliez, Elisabeth. Et puis, je trouve que le recueil bascule vraiment avec la nouvelle intitulée Scheherazade, où l'on se retrouve chez un homme qui vit reclus, coupé du monde, on ne sait pas vraiment pour quelle raison, et qui reçoit la visite d'une femme qui est désignée comme son agent de liaison, femme avec laquelle il fait l'amour régulièrement. Et cette femme a la particularité de, après chaque étreinte, se mettre à raconter des histoires. Donc, telle Scheherazade, elle va notamment raconter comment, adolescente, elle s'introduisait dans la maison du jeune garçon qu'elle aimait en secret. Et ce que je trouve très beau aussi, c'est qu'elle raconte, parmi toutes les histoires qu'elle lui raconte, que dans une vie antérieure, elle était une lamproie. Donc ce poisson. Et rien qu'à cette évocation, je trouve qu'il y a tout un monde sous-marin qui s'ouvre et des images qui rappellent les tableaux de Kuniyoshi avec ces monstres marins. Donc on est dans ce monde flottant qui peut aussi faire penser au dessin animé de Miyazaki. Et là, voilà, je trouve qu'il y a vraiment une bascule, et même dans l'écriture, même dans le propos. En tout cas, moi, je retrouve ce que j'aime vraiment chez Murakami. Et ça va ainsi de texte en texte. Le bar de Kino, qui est une nouvelle purement murakamienne, puisqu'on retrouve tous les motifs chers à l'auteur.
Dont le chat. Que vous aimez tant, Elisabeth. Ouais,
effectivement, ce chat qui m'a... Bon. On ne sait pas ce qu'il devient, le chat, dans cette nouvelle. Le jazz, le bar de jazz, puisque Murakami tenait un bar de jazz avant d'écrire. Un client qui lit en permanence, donc un personnage de lecteur acharné, qui fait aussi partie, ce qui fait partie des motifs récurrents de l'œuvre de Murakami. Donc je trouve effectivement qu'il y a une approche très délicate, très sensible de cette solitude humaine, et qui est d'autant mieux mise en valeur que chaque personnage principal a toujours un double. Dans l'histoire, il y a toujours un personnage double inversé, et qui fait ressortir ce sentiment de solitude. Donc je trouve que c'est un recueil très sensible, très délicat, qui peut permettre d'attendre, de patienter jusqu'à la sortie du prochain roman fleuve de Murakami qui a déjà paru au Japon.
Bon, il faut laisser le temps à Hélène Morita de le traduire. Il fait jamais très court. Enfin, je sais pas ce qu'il en est du dernier, mais Elisabeth Franck Dumas sur ce recueil d'Haruki Murakami, Les Hommes sans Femmes chez Bellefond.
Ah oui, moi je trouve que c'est quand même mieux que juste un moyen de patienter, je trouve. Alors, entièrement d'accord avec Elisabeth Philippe sur le crescendo dans le livre. C'est vrai que les deux premières nouvelles, bon, c'est bien, c'est toujours bien. Il y a cette écriture qui glisse, on est porté, il va rien nous arriver. C'est formidable.
Mais c'est un peu le problème.
Mais
il va rien nous arriver.
Bon, et puis à partir de Scheherazade, là, ça commence à devenir vraiment intéressant parce qu'on bascule dans autre chose. C'est Scheherazade Kino, c'est un petit bijou, cette nouvelle. On bascule dans un fantastique jamais explicité. C'est très difficile de parler de Murakami. On faisait la comparaison avec Laurie Moore et son staccato et son sens de la formule. Là, c'est En fait, c'est drôle. Moi, très souvent, je note.
Mais là, il faut lire quatre pages pour.
Et en fait, non, il n'y a pas la formule qui fait mousse parce que tout avance comme ça d'un seul bloc. Voilà, d'une grande fluidité. Tout est d'une grande qualité. Et en fait, la qualité provient, bon, évidemment, de la nature des situations et de la manière dont les intrigues s'enchaînent, mais aussi de la reprise de détails.
C'est l'accumulation.
D'abord, trouver anodin, et puis le détail revient et revient et revient encore, et couche après couche. Voilà. Ça devient signifiant. En plus, je le disais, de ces intrigues mises en place, le veuf qui veut revoir l'amant de sa femme, rien que pour toucher ses mains, parce que ses mains-là ont touché le corps de sa femme, ou donc Kino, une histoire absolument, enfin qui dérive très rapidement dans le fantastique, on est accroché. Et puis, c'est justement ça qui est génial, c'est qu'au cœur de toute cette tranquillité, ce calme, le surgissement de l'étrange et du fantastique, parce que je suis assez d'accord avec vous, Arnaud Laporte, sinon, on se dirait, bon, il nous arrive rien. Mais même dans les nouvelles les plus anodines, notamment Drive My Car, la première, alors je me suis posé la question du point de vue, justement sur cette histoire de genre et sur ce regard, enfin le regard qui est porté sur les femmes. Parce qu'au début, ça m'a pas mal froissé aussi, Drive My Car, les remarques qui sont faites sur les femmes, ça reviendra au cours de... Mais je pense que c'est plus finalement une caractérisation du personnage que de l'auteur.
Pas sûr, Elisabeth.
Je sais pas, je me suis posé la même question. Je voulais toujours avec l'envie de sauver Murakami.
Je ne suis pas certaine.
Dans la nouvelle avec le chirurgien Volage, notamment, on retrouve des considérations, puisque le titre de la nouvelle, c'est un organe indépendant, l'organe indépendant, qu'auraient les femmes cet organe qui leur permettrait de mentir.
Oui.
Le propos est...
Alors là, pour le coup, moi, je trouve que toute la nouvelle, on voit vraiment, même si elle est racontée, non pas du point de vue du chirurgien, qui n'est pas là, mais du point de vue du narrateur, mais tout est raconté en termes cliniques et médicaux, de la première à la dernière page, et on sent vraiment que c'est la vision du médecin, voilà, qui s'est trouvé un porte-parole. Même au tout début, quand il explique pourquoi il n'a pas de famille, pourquoi il n'y a pas de relation familiale, il utilise quand même cette expression extraordinaire pour parler des enfants. Les enfants qui mettent les appareils digestifs et nerveux des parents à rude épreuve. Ça, c'en est qu'une, mais toute la nouvelle est truffée de petits commentaires. Tout n'est que médical, jusqu'à cet organe indépendant qui serait chargé de permettre aux femmes de mentir.
Oui, vous cherchez vraiment à le sauver, Murakami.
J'ai trouvé qu'au contraire, c'était la question du point de vue. Là, c'était remarquablement réussi, puisqu'il y avait tous ces commentaires cliniques et chirurgicaux et médicaux absolument absurdes qui survenaient vraiment du début à la fin et qu'on ne retrouve dans aucune autre nouvelle. On voit bien qu'il s'est glissé.
Mais le narrateur donne raison aux chirurgiens parfois sur ce. Le narrateur n'est pas Murakami, mais je ne vais pas y arriver.
Quand même, à force de lire Murakami, il est quand même plus misanthrope que misogyne. Je pense que c'est quand même un regard sur l'humanité qui inclut les femmes, certes, mais d'une façon
un peu... Oui, parce que je ne trouve pas que les hommes s'en sortent particulièrement bien dans ces nouvelles non plus.
Non plus.
Mais, alors voilà, problème pour en parler, puisqu'il n'y a pas ces formules qui font mouche. Néanmoins, il y a même dans les nouvelles les plus banales, des petites remarques incongrues qui tout à coup, alors qu'on est dans une grande banalité de bourgeoisie aisée, tokyoïte, vivant une vie dans les clous, paf, on tombe dans quelque chose de totalement étrange et l'air de ne pas y toucher. Par exemple, encore Drive My Car, qui donc, pourtant on l'a dit, n'est vraiment pas la nouvelle la plus consistante du recueil. Le narrateur décrit son rival, l'amant de sa femme morte. Ainsi, l'homme n'abritait ni fausseté ni méchanceté. Il n'était pas du genre à creuser un trou profond en pleine nuit et à attendre que quelqu'un vienne passer pour tomber dedans. Dans ces conditions, impossible qu'il soit un bon acteur. Alors déjà, le lien logique, on ne l'appréhende absolument pas. Mais en plus de ça, on sent bien que le monde est désormais divisé en deux parties. Ceux qui creusent des trous la nuit en attendant que quelqu'un tombe dedans et les autres. Et je trouve que tout à coup, on bascule dans quelque chose. Mais voilà, comme la narration court, très fluide, on avance, puis tout à coup on revient sur ses pas et on se dit non, qu'est-ce qui... Bon, c'est un des plaisirs de la lecture de ce recueil.
Oui, je trouve que c'est un recueil dans lequel on flotte un peu comme dans un songe, effectivement, avec cette absence de lien logique, cette écriture très fluide, il y a un côté songe. songe éveillé.
Alors, on se pose, je ne sais pas si vous êtes posé cette question. On se pose parfois la question du pourquoi des détails biographiques donnés. Parfois, il y a des fils qui avancent. On se dit, tiens, il va se passer quelque chose. Et puis, tout à coup, non. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'il a raconté ça? Enfin, on se pose cette question. Et alors, ma collègue Claire Devarieux a eu cette formule géniale en parlant de ce livre, donc j'aimerais la citer. Ce sont des détails qui rendent la fiction plus légère et plus solide à la fois. Elle a entièrement raison. Il arrive comme ça, avec énormément de petits détails, de petites notices biographiques, à rendre tout ça plus léger et plus solide. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Salut à Claire Devarieux. Des hommes sans femmes, Haruki Murakami chez Belfond, traduction Hélène Morita.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et le troisième sujet de cette dispute littérature, c'est toujours un livre en édition de poche cette semaine, De la simplicité, Henri David Thoreau, Gallimard, en folio sagesse, une traduction de Louis Fabulé. On rappelle quand même le philosophe naturaliste, poète américain, est né il y a tout juste 200 ans, en 1817, dans le Massachusetts, où il est mort 45 ans plus tard, que son essai La déobéissance civile a beaucoup inspiré les luttes pour les droits civiques à travers le monde. On insère le « Allez voir, I'm not your Negro » en salle. On le redit encore une fois. Puis bien sûr, Walden ou La vie dans les bois, œuvre majeure qui ne cesse d'inspirer quantité d'études, d'analyses, de vocations. D'autres œuvres, fruit de cette retraite de Thoreau qui s'est installé seul dans les bois et a subvenu par lui-même à ses besoins. De la simplicité, c'est un recueil en fait de morceaux choisis de Walden dans la vie des bois. Le texte intégrale reparaît, lui, dans la collection Imaginaire.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette? Allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire? Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie. Comment peut-il encore lui plaire ?
En fait, on va rester notre thématique solitude, si vous le voulez bien. Je vous propose quelques lignes de Thoreau dans le segment donc de ce livre intitulé « Solitude ». Je trouve salutaire d'être seul la plus grande partie du temps, être en compagnie, fût-ce avec la meilleure, et vite fastidieux et dissipant. J'aime à être seul. Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi compagnon que la solitude. Nous sommes en général plus isolés lorsque nous sortons pour nous mêler aux hommes que lorsque nous restons au fond de nos appartements. Un homme pensant ou travaillant est toujours seul, qu'il soit où il voudra. La solitude ne se mesure pas aux 1000 détendues qui séparent un homme de ses semblables. L'étudiant réellement appliqué en l'une des ruches serrées de l'université de Cambridge est aussi solitaire qu'un derviche dans le désert. Bon, je pourrais continuer un petit peu, mais le temps presse et j'ai envie de vous entendre parler de Henry David Thoreau. Elisabeth Franck Dumas.
Oui, alors moi j'avais proposé qu'on parle de ce livre. J'étais restée sur le souvenir de « Je vivais dans les bois », qui était un folio un peu plus épais, qui était une somme d'extraits également de Walden. Je ne connaissais pas cette collection Sagesse, folio Sagesse. Et alors là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce folio-ci, le folio Sagesse, était une somme encore plus courte que celle du précédent ouvrage. Alors, pourquoi est-ce que c'est encore plus court? C'est à peine une centaine de pages, je crois. Ce ne sont pas seulement des parties entières qui ont été enlevées, mais vraiment...
C'est un montage.
Voilà, il y a un montage et au cœur même des textes, il y a énormément de choses qui ont été enlevées. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors, c'est quand même bien de parler de Thoreau et bien de parler de ce livre-là, mais je trouve ça un petit peu dommage parce que ça donne finalement le sentiment, l'impression que Thoreau est un épouvantable donneur de leçons. Alors certes, il était donneur de leçons, mais dans l'original, où l'original original réduit original.
Alors, qui existe en folio à 2 euros.
Qui existe en folio à 2 euros. Il y avait quand même, aussi de longues descriptions de lacs, des passages d'une poésie absolument merveilleuse, mystique, de communion avec la nature. Bon, alors tout ça, hop, c'est sorti ou presque, pour ne garder que les enseignements, car nous sommes dans la collection Folio Sagesse. Mmh. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, j'avais quand même envie de le dire, parce qu'il ne faudrait pas, je pense que l'écriture de Thoreau est suffisamment forte pour donner envie aux lecteurs de cet ouvrage-ci d'aller voir l'original, mais quand même, voilà, il manque, c'est le bémol, hein, c'est que je trouve que cette découpe et cet empaquetage à visée de leçons de sagesse est un petit peu dommage. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va quand même dire que c'est une manière de découvrir Walden, qui est ce livre extraordinaire donc, qu'il a rédigé lorsqu'il a passé 2 ans dans les bois, dans la forêt d'Emerson, son ami et mentor, philosophe transcendantaliste. Et pourquoi est-ce qu'il est parti tout seul dans sa cabane, dans les bois? Parce qu'il ne voulait pas découvrir qu'il n'avait pas vécu. Son constat, et il a bien raison, c'est que notre vie se gaspille en détail. Nous vivons comme des babouins, je cite, et je trouve que tout ce qu'il dit s'appliquait sûrement merveilleusement au monde dans lequel il vivait, mais s'applique encore mieux au monde dans lequel on vit. Alors, est-ce que c'est qu'il n'a pas été assez lu et écouté? Bon, sûrement. Est-ce que c'est pour ça qu'il connaît un regain d'intérêt aujourd'hui? Il y a des enseignements sur le travail, l'obsession du travail. Alors, ça, hélas, que je pense que le monde entier a importé des États-Unis. Bon, il y a 1000 raisons à ça. Mais enfin, il y a quelque chose de sacrilège dans la violence de ses propos contre le travail, contre la culpabilité aussi. Alors, ce passage a disparu. Enfin, il apparaît très brièvement et je crois me souvenir que dans l'original, c'était beaucoup plus développé, de tous ces concitoyens qui courbent les chines. Alors ça, il y a, mais je
oui, c'est, dans mon souvenir, à peine une allusion dans le segment.
Dans l'original, il y avait quand même un long segment sur son emportement contre ce sentiment de culpabilité, contre le travail, contre cette idée que l'homme n'est rien d'autre qu'une machine et que les hommes sont devenus des outils de leurs outils. Mais enfin, je pense que là, l'image se pose d'elle-même, on n'a rien à ajouter. Et c'est génial de lire ça, la liberté de ton, la fraîcheur du propos, je trouve ça absolument extraordinaire. On mesure ce que ça devait avoir de révolutionnaire à l'époque, et c'est absolument, ça a gardé toute sa force aujourd'hui, et au contraire, il faut lire, il faut écouter Thoreau, on pourrait en faire un prophète de la décroissance, on parle souvent de lui le premier des écolos, c'est le prophète de la décroissance, on en a trop, il faut arrêter de trop en faire, il faut arrêter de trop en avoir, donc il n'y a pas tous ces passages de communion avec la nature qui est un antidote proposé, mais je trouve que c'est extraordinaire, jusqu'à sa critique des nouvelles, des ragots colportés, pareil. Enfin, il y a pas besoin de passer énormément de temps sur les réseaux sociaux pour se dire que là aussi, il avait bien raison. Il était même visionnaire. Et je trouve que c'est une pensée d'une modernité et d'une force qui mérite d'être appréhendée, même dans le petit ouvrage un petit peu trop tronqué, à mon sens, de cette collection Sagesse.
Oui, ça peut être une forme d'entrée, en tout cas, Elisabeth Philippe.
Oui, une forme d'entrée, mais c'est vrai, simplement pour rebondir sur ce que vous disiez, Elisabeth, c'est vrai que l'écriture paraît assez aride et fastidieuse, là, je trouve, débarrassée, comme ça, de ces morceaux magnifiques, de descriptions de nature. Là, je trouve que ça donne un texte un peu... donc, ça peut être une porte d'entrée, effectivement, pour la compréhension de la pensée de Thoreau, mais pour son écriture, c'est pas vraiment lui faire justice. Il y a quelques pages, heureusement, qui conservent cet aspect lyrique, communion avec le cosmos aussi. Là, on est carrément dans des pages cosmiques. Ça, c'est très bien. Et c'est vrai, vous avez tout dit, hein, Elisabeth est parfaitement bien. Ça résonne extrêmement fortement avec les aspirations qui sont les nôtres, enfin qui sont celles d'un grand nombre de personnes, je pense, aujourd'hui. Enfin, dans ces pages, on peut remplacer des mots. Ce que vous disiez sur l'homme-machine, dans ces pages-là, il préfigure ce qu'on appelle maintenant le burn-out, en bon français. Il est aussi un chantre de la décroissance, même s'il ne nomme pas ça comme ça, ou de la sobriété heureuse. Enfin, tous ces concepts sont contenus déjà dans l'œuvre de Thoreau. Et je disais que c'est une aspiration de plus en plus présente. Je pense que ça se retrouve notamment dans la littérature. J'ai notamment en tête le dernier roman de Céline Minard, Le Grand Jeu, de cette personne qui se retirait dans la nature. Et je trouve que c'est un thème qu'on retrouve parce qu'il est très présent dans la société contemporaine, qu'on retrouve aussi dans la littérature. Et puis, il faut aussi reconnaître à Sorrow que parmi les activités qu'il juge nécessaires à la vie d'un homme, il y a la lecture. Oui. Donc ça fait l'objet d'un chapitre à part entière.
Pour le coup, celui-là est pas mal, parce que il si on lit le segment lecture dans ce petit livre de la simplicité, on aura envie de lire tout Sorrow.
Absolument,
logiquement.
Surtout qu'il conseille de ne lire que les meilleurs livres, de ne pas s'embarrasser avec...
Donc,
comme il a raison.
Et on le comprend. Donc, oui, ça peut être une porte d'entrée. Je pense après que Walden n'est pas non plus un texte d'une très grande complexité. Donc, je dirais qu'on peut aller directement à la source.
Bon, ça, c'est à l'imaginaire que c'est republié. Mais alors, vous citez Céline Minard qui a nos faveurs. Mais on se souvient du succès de Sylvain Tesson, c'est bien son prénom. Son livre En Sibérie, j'ai oublié qui a repris, qui ne s'en cache pas, hein, d'ailleurs, l'expérience solo. Et vraiment, et puis, il y a eu beaucoup de spectacles. Jean-François Perret a fait plusieurs. Alors, il a décliné en plasticien, en installation, au théâtre. Et Walden et re-Walden, c'est vraiment un moment, plus que même qu'un texte, un moment séminal, mais dans la pensée, dans l'art, dans la littérature, Elisabeth Franck Dumas.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que je me souviens d'avoir lu une interview de Jean-François Perret où il expliquait qu'il n'aime pas particulièrement Sorrow, ni son écriture, et que pourtant il ne pouvait pas s'empêcher de revenir à ce texte, et il y est allé deux fois.
Ça dit tout.
Oui, voilà, et je pense que c'est pour toutes les raisons.
Il avait fait une installation vidéo sublime, Jean-François Perret, en mettant sa caméra simplement au bord de l'étang, de Walden, et avec le passage du temps, tel que l'a pu le voir Thoreau.
Oui, exactement, et tel que nous engage à le voir et à le faire Thoreau, et je pense qu'on n'en a pas fini, parce que c'est plus que jamais nécessaire de le lire aujourd'hui. C'est révolutionnaire, c'est vraiment d'une insolence et d'une impertinence par rapport aux mœurs de l'époque, que ce soit la sienne ou la nôtre, que je trouve vraiment révolutionnaire.
Et j'évoquais de la désobéissance civique, c'est pas non plus une vue de l'esprit que de dire que ce texte a servi aussi bien Martin Luther King que Gandhi. Enfin, c'est quelque chose qui traverse là aussi les époques.
Oui, Thoreau est allé en prison parce qu'il refusait de payer ses impôts car il ne soutenait pas un État qui promulguait l'esclavage. Voilà, il y aurait des enseignements à tirer de ça. Je crois d'ailleurs qu'après l'élection de Trump, ça a été un petit peu proposé, ça. Tiens, arrêtons de payer les impôts. Mais tout le monde n'est pas prêt à aller en prison comme Thoreau. Bon, il y avait passé une journée. Hein.
Ouais.
Mais
quand même.
Néanmoins.
Oui, il est resté longtemps au bord de son étang. De la simplicité, alors ça c'est pour commencer éventuellement, sinon vous pouvez aller directement à Walden ou La vie dans les bois, ça reparaît dans l'imaginaire, ou cet autre recueil de morceaux choisis, Je vivais dans les bois, en folio. Donc plein de façons d'aller vers Henry David Thoreau. La traduction, hein, c'est toujours la même, celle de 1922 de Louis Fabulé. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir, pour en connaître enfin la réponse. Et ce soir, c'est Justine Dibling qui va nous rappeler la question, puis la réponse.
Avant de se lancer dans le photoreportage en Afrique, le photographe Claude Hivernet a commencé sa carrière artistique chez un grand couturier français. Qui était-il ? Et la réponse était Pierre Cardin.
Et ce soir, nous faisons gagner des invitations pour le spectacle Noé du Malandin Ballet Biarritz. Ce sera à Chaillot, à Paris, pour la représentation du jeudi 17 mai à 20h30. Quelle est la question, Justine ?
Quelle artiste française a réalisé dans les années 90 l'Arche de Noé, un ensemble de sculptures monumentales représentant des animaux géants et exposées aux eaux bibliques de Jérusalem ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions, vous abonner bien sûr au podcast, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook La Dispute FC. Suivre également le Twitter Dispute FC. On vous donne rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. Nous serons en compagnie de Philippe Chevillier et René Solis à notre affiche Amphitryon de Kleist, mise en scène Christophe Rauch. avec l'atelier théâtre de Piotr Fomenko, c'était au Théâtre du Nord à Lille, puis au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Nous parlerons du Testament de Marie de Com Toybin, la mise en scène Deborah Warner, à l'Odéon, Théâtre de l'Europe, avec la Comédie Française. On évoquera aussi plus rapidement la Journée d'une rêveuse et autres moments d'après Copie, mise en scène Pierre Maillet, en ce moment au Théâtre du Rond-Point, puis en tournée. La 8e édition Chantier d'Europe au Théâtre de la Ville, et puis la reprise des Palmiers Sauvages d'après Faulkner, mise en scène de Séverine Chavrier, à voir au Centre Dramatique National d'Orléans. Boris Pinault lui passera un coup de fil au chorégraphe Vincent Dupont pour son spectacle Maître en pièces. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir, et dans quelques instants, le journal de la rédaction.